Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous. Des combats ont éclaté ce matin à Tripoli entre des forces armées rivales. Des affrontements qui ont été qualifiés de violents, peut-être les plus violents auxquels on est assisté depuis le cessez-le-feu. Pour l'instant, pas d'informations sur l'identité réelle des factions qui se sont affrontées. Mais souvenons-nous qu'au cours des dernières années de la guerre, du drame libyen, il y a eu à de nombreuses reprises des factions qui se sont battues, qui ont ouvert le feu pour contrôler tel ou tel périmètre. La Libye, c'est également l'inquiétude américaine qui est exprimée par le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, Joy Hood, qui s'inquiète d'une candidature de Saif al-Islam, le fils Kadhafi, à la prochaine élection générale du 24 décembre, qui inclut une présidentielle. Le fils Saif al-Islam est considéré comme un criminel de guerre. Il est soumis aux sanctions des Nations Unies et des États-Unis, a rappelé le secrétaire d'État, d'où l'inquiétude si jamais cette candidature venait à être confirmée. Par ailleurs, les Américains qui appellent au retrait de toutes les forces étrangères. Pour ce qui est du Maroc, la Libye, donc, avec ces entretiens qu'il y a eu hier à Rabat entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et puis le président de la Chambre des représentants libyenne, Guy Saleh. Ces entretiens ont porté sur la nécessité de respecter le calendrier des élections libyennes. Pour Nasser Bourita, respecter les dates est fondamental pour rétablir la stabilité en Libye. Et il ajoutait que le règlement de la crise ne se fera pas par le biais de conférences ou d'interventions étrangères, mais par les Libyens eux-mêmes. Toujours beaucoup de rumeurs, de déductions et d'analyses en Tunisie, notamment après cette rencontre qu'il y a eu entre le président Kais Saied et puis le bâtonnier de l'Ordre national des avocats tunisiens, Brahim Bouderbala. Alors il y a eu cette petite phrase qui a été notée, qui celle donc attribuée au président tunisien, déclarant à ses hôtes, donc au bâtonnier, que le président compte revenir devant le peuple qui est à l'origine du pouvoir et qui va, ce peuple, pouvoir décider conformément à la loi. Alors cette phrase qui a été rapportée, hein, ce n'est pas des mots qui ont été entendus de la part du président tunisien, cette phrase a fait beaucoup réfléchir puisqu'il y a actuellement des convergences d'analyses disant que l'on se dirigerait en Tunisie vers de prochaines élections anticipées. D'aucuns vont sur des schémas de dissolution du Parlement pour permettre de nouvelles élections, une suspension de la Constitution, l'élaboration d'un nouveau texte, tout cela proposé par référendum. Alors, il faut s'en tenir à la stricte réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas eu de déclaration officielle du palais de Carthage, mais cette petite phrase du président tunisien qui laisserait envisager que le peuple tunisien va bientôt être sollicité, appelé à s'exprimer dans les urnes pour se prononcer sur le devenir du pays. D'un mot pour finir sur la Tunisie, juste signalons l'arrivée d'un avion de secours en provenance d'Arabie Saoudite qui transportait 2000 réservoirs d'oxygène. C'est tout à fait important. Cela est pour aider la Tunisie à lutter contre la pandémie de coronavirus. Et puis également ces chiffres qui ont été donnés par l'Association nationale des petites et des moyennes entreprises. Ce sont des chiffres qui sont préoccupants. 54 000 PME tunisiennes sont sur le chemin de la faillite. Alors, elles ne sont pas au bord de la faillite, mais la situation économique est telle que nombre d'entre elles sont aujourd'hui menacées dans l'exercice de leurs activités, ce qui, bien évidemment, inquiète à la fois les acteurs du monde des PME, mais aussi les grands argentiers du pays qui ont besoin d'une économie de moyenne gamme, va-t-on dire, pour pouvoir faire vivre et pour pouvoir créer des emplois. Or, celle-ci, aujourd'hui, est menacée par la crise économique. Après un été brûlant, des coupures d'eau, voici donc venu le temps de la pluie en Algérie. Cela s'est passé à Oued de Mittar, dans la wilaya de Msila. 3 personnes ont disparu sous des pluies orageuses, 7 autres ont pu être secourues. Les pluies du mois de septembre font beaucoup de dommages. Alors habituellement, c'est vrai que la période, quand on rentre dans l'automne, cela peut créer des dommages naturels. Mais là, cette fois-ci, ça commence tout de même très tôt, ce qui est un élément indicateur du dérèglement climatique. Les acteurs algériens qui sont sensibilisés à ces questions tiennent à rappeler que l'Algérie a perdu 200 000 hectares de terres agricoles les plus fertiles, ceci entre 1962 et 1994. La bétonisation, le mot n'est pas très joli, mais en tout cas, mettre du béton partout, cela empêche bien souvent l'eau de s'infiltrer, de recharger les nappes alluvionnaires, ce qui fait que lorsque la pluie tombe, eh bien le sol n'absorbe pas l'eau, cela facilite, cela aide à la création d'inondations qui vont être fatales aux habitants. C'est vraisemblablement ce qui s'est produit sur Oued Mittar. Attendons pour autant les résultats de l'enquête qui est en cours. Ce drame en Nouvelle-Zélande où la police a été contrainte d'abattre un extrémiste extrêmement violent, un homme qui était connu par ses services, qui s'était radicalisé, un ressortissant d'origine sri-lankaise en Nouvelle-Zélande depuis 10 ans. Il est rentré dans un supermarché et il a commencé à agresser plusieurs personnes qui ont été pour 6 d'entre elles blessées, certaines moins gravement que d'autres, mais bien évidemment beaucoup d'émotions en Nouvelle-Zélande, sachant que c'est un pays qui est extrêmement calme et tolérant. Et malgré tout, cet individu qui était donc d'origine sri-lankaise était sous la surveillance des services de police depuis environ 5 ans. Malgré ça, il a réussi à passer à l'action. Cet homme a été donc abattu par les forces de sécurité. Israël n'a pas confirmé officiellement l'information, mais Israël ne confirme pas toutes les frappes qui sont opérées sur le territoire syrien. Des missiles ont touché dans la nuit des positions militaires qui sont fréquemment utilisées par des groupes pro-iraniens. Cela s'est passé dans la banlieue de Damas, à Barzeh, ainsi qu'à Jamraya. C'est là où l'Israël voulait empêcher de nuire ces groupes pro-iraniens qui lui posent beaucoup de problèmes. Ces frappes aériennes interrogent par ailleurs, puisqu'on se souvient de l'agacement russe qui a menacé de fermer le ciel aérien syrien pour empêcher les attaques aériennes. Il avait semblé que Israël allait recourir peut-être à des frappes avec des canons à longue portée. En fait, non, après avoir cru qu'il allait se plier à la demande russe d'arrêter les frappes aériennes, celles-ci ont repris dans la nuit avec ces missiles qui ont donc touché des positions militaires du régime. Afghanistan, les combats entre les forces talibanes et les hommes de Ahmad Massoud dans la vallée du Panjshir. Plusieurs centaines de combattants sont en train de s'affronter. Pour l'instant, les communiqués des uns sont totalement contradictoires. On nous fait état d'un grand nombre de victimes, mais rien n'a été confirmé pour l'instant. Donc prudence quant aux communiqués des uns et des autres. Mais une certitude, il est un point sur lequel tout le monde s'accorde à dire, c'est qu'il y a véritablement l'offensive engagée par les talibans et aujourd'hui, incontestablement, Ahmad Massoud et ses hommes entendent résister à la pression militaire des talibans.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
Nous allons au Proche-Orient avec cette opération d'intox, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, intoxication de la presse, avec le Hezbollah à la manœuvre qui a annoncé il y a de cela quelques jours avoir demandé aux Iraniens d'affréter un pétrolier avec la précieuse substance à bord dont le Liban manque tant. Le pétrolier est parti et hier, des informations nous sont parvenues faisant état d'une arrivée du pétrolier dans les eaux nationales syriennes, peut-être des opérations de transbordement de telle façon à ce que le pétrole soit chargé sur des camions citernes qui ensuite seraient venus livrer le pétrole au Liban. Tout cela est absolument faux. On en a désormais la preuve. Ceci grâce au GPS, ceci grâce à l'observation satellite. On sait qu'aujourd'hui, un, oui c'est vrai, le pétrolier est parti. 2. Non, il est absolument faux. Celui-ci n'est pas aux abords des côtes syriennes. Il sera au mouillage au canal de Suez d'ici 2 jours. En tout cas, c'est ce qui a été évalué par Marine Trafic, de telle façon à ce qu'on puisse vraiment suivre le déroulé de ce voyage. Ô combien périlleux. Où va aller ensuite ce pétrolier? Est-ce qu'il va tenter un mouillage au Liban? Est-ce qu'il va tenter un mouillage en Syrie pour ensuite revenir au projet initial de faire livrer le fioul via des camions en citerne? Ceci est intervenu donc alors qu'il y a une délégation américaine qui est à Beyrouth, qui n'a pas du tout apprécié la proposition du Hezbollah que de relancer le projet de fourniture du pétrole iranien. Cette délégation est conduite par le sénateur Chris Murphy, qui a rappelé que les Américains, d'abord, un, ne veulent absolument pas entendre de livraison de pétrole en provenance de l'Iran au Liban, ça c'est le premier point, et deuxièmement, les Américains travaille aujourd'hui pour essayer de trouver une solution pour résoudre la crise du carburant en Libye. Les États-Unis suggèrent que le Liban soit aidé par de l'électricité qui pourrait venir par exemple de Jordanie ou également peut-être faire transiter du gaz égyptien toujours via la Jordanie. En tout cas, essayer de trouver des solutions. Mais les Américains campent une position qui est extrêmement claire. Ils ne veulent pas de cette livraison de pétrole qui va arriver très vraisemblablement, mais elle n'est pas au ras des côtes libyennes, comme le prétendait la propagande du Hezbollah. Elle sera d'ici 48 heures au mouillage près du canal de Suez.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.